on conçoit assez facilement que chacun de nous, quand on regarde en arrière sa vie, on arrive à en tirer des leçons pour aujourd'hui et puis pour l'avenir. Il y a des périodes comme ça où on fait des bilans, alors il y a la fin d'année, où il y a des fois des anniversaires ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Et puis il arrive aussi qu'il y a des personnes autour de nous, ça peut être nos parents, ça peut être quelqu'un de remarquable, un frère ou une sœur dans l'église, qui aussi, par leur vie, par leur expérience, nous influencent notre manière de vivre. Alors il y a des âges, c'est vrai qu'on a du mal à apprendre par l'expérience de leurs parents. J'ai les enfants, ils veulent apprendre tout seuls. Mais tant qu'ils n'auront pas expérimenté une chose, ils pensent que ce que leurs parents leur interdisent, c'est dommage. Mais plus généralement, en fait, on peut se poser la question sur le fait d'apprendre comment le passé peut nous aider, comprendre le passé peut nous aider à bien vivre, mieux vivre notre présent, notre aujourd'hui et notre demain. Et en parlant de l'histoire du peuple hébreu, qui a été pendant 40 ans dans le désert, il est écrit ceci dans le Nouveau Testament, donc c'est des écrits qui concernent des faits qui sont très vieux. Il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, voilà, un exemple comme quoi les histoires passées ne sont pas que des histoires qui sont là pour faire joli, mais qui ont été écrites pour notre instruction. Et quand on réfléchit à notre foi, elle est fondée sur Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est un événement, la mort de Christ, la résurrection de Christ, qui est ancrée dans l'histoire. Et finalement, notre foi, c'est quelque part l'interconnexion entre un événement passé et puis notre quotidien, notre aujourd'hui. Et c'est ce qui est écrit aussi dans les évangiles, il dit ceci, « Ces choses ont été écrites. » Donc il parle des évangiles, ces gens qui disent ceci. « Elles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà. Alors quelque part, nous sommes tous appelés à être un petit peu des historiens, même si parfois certains n'aiment pas l'histoire. Et le premier livre des rois que je vais vous présenter aujourd'hui sera donc, comme Benoît l'a dit, le livre du mois, à partir de maintenant, jusqu'au 20 mars, date à laquelle nous partagerons ensemble ce que ce livre a pu nous apporter dans notre lecture personnelle. Vous l'avez peut-être vu, dans la Bible, il y a donc deux livres des rois. Il y a un roi et deux rois. Tout comme il y a deux livres de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Tout comme il y a deux livres des chroniques, 1 chronique, 2 chroniques. Mais il faut considérer un et deux rois comme étant en fait deux volumes d'un seul livre. Parce qu'à l'origine, ils ne constituaient qu'un seul livre. Tout comme les chroniques ne constituaient qu'un seul livre, tout comme Samuel aussi ne constituait qu'un seul livre. Et quand on regarde donc ces premiers livres qui sont dans notre Bible, nous voyons une certaine continuité entre Josué, le livre de Josué, le livre des juges, le livre de Samuel et le livre des rois. Parce qu'il concerne finalement des périodes qui se suivent. Les personnes qui ont rédigé l'histoire du peuple d'Israël ont, en général, se sont basées sur la vie de grands hommes. L'Exode se termine, dans l'Exode commence à la mort, après la mort de Joseph, hein, il mentionne ça au début du livre de l'Exode, Joseph mourut. Et ensuite, les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui couvrent une même période, débutent à la naissance de Moïse, se terminent à sa mort. Le livre de Josué, il commence par après la mort de Moïse. Donc on voit que c'est la continuité. Et puis le livre des juges commence par après la mort de Josué. Et il se termine par la mention « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Et puis avec le livre de Samuel, on rentre dans la période de l'instauration de la royauté en Israël, avec ses deux premiers rois, comme l'a rappelé Benoît, Saül et David. Donc il y a une continuité dans tous ces livres qu'on peut appeler historiques. Le livre des rois, lui, débute par la mort du roi David. On peut lire au chapitre 2, verset 10, que David se coucha avec ses ancêtres. On lui mentionne le règne de Salomon, avec particulièrement la construction du temple. Ensuite, la séparation entre le royaume du Nord et le royaume de Juda. Et puis, le ministère de Élie, le prophète. Alors, on va regarder tout ça. On va remettre ça un petit peu dans la chronologie. Je n'ai préparé une. Donc la sortie d'Égypte, qui est couverte par le livre d'Exode à Deutéronome. Ensuite, la conquête de Canaan avec le livre de Josué. Ensuite, l'époque des juges. Et le livre de Ruth se déroule à l'époque des juges. Puis ensuite, l'époque de la royauté. Avec donc le livre de Samuel, le règne de Saül, le règne de David, le règne de Salomon. Et puis la séparation entre les deux royaumes. Et ensuite, j'ai mentionné donc là le ministère d'Élie. Donc l'époque des juges, l'époque du Royaume-Uni, unique ou du Royaume-Uni, pour les Anglais, non, et le royaume divisé, avec les dates. Après le ministère d'Élie, je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a le ministère, parce que là j'ai dit, le livre des rois, c'est un tout. Il y a le ministère d'Élisée, qui est un autre prophète. Il y a la fin du royaume du Nord et la fin du royaume de Juda avec la déportation. Donc le livre des rois couvre une période de 965 à peu près jusqu'à 560 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une période de 400 années. On va voir, essayer de déterminer un petit peu les grandes lignes de ce livre. Le livre des rois a été rédigé après la déportation babylonienne, puisqu'il le mentionne. On ne sait pas qui en est l'auteur. Peut-être Jérémie. Beaucoup de gens pensent que c'est Jérémie, mais ça pourrait être aussi un ouvrage collectif de plusieurs prophètes. Le peuple, donc, est en exil à Babylone. Et en exil, il a besoin de regarder son histoire avec le regard de Dieu. Parce que c'est un petit peu le constat d'échec. Pourquoi le peuple est-il à Babylone? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est pourquoi, en lisant le livre des rois, nous essayons de suivre un fil rouge qui est celui-ci. Non, la faillite du peuple qui a abouti à la destruction des deux royaumes, à l'exil, n'est pas le résultat de l'infidélité de Dieu, ni de son impuissance face aux événements, mais elle est de l'entière responsabilité du peuple et particulièrement de leurs rois qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance passée avec Dieu. Le livre des rois a été rédigé dans ce but, de montrer, d'expliquer ce qui s'est passé. Comment Israël est passé d'un statut de grande nation à un statut de peuple à la fois divisé géographiquement et aussi divisé spirituellement. Et l'auteur du livre des rois retrace des étapes significatives de l'histoire d'Israël. Alors le début du livre des rois, il se situe dans un contexte politique où il n'y a pas de grande hégémonie, de grande puissance qui règne. Alors, tu peux montrer la carte. Il y a bien sûr à cette époque, ou un petit peu avant, en bas, l'empire égyptien. Et puis il y a un empire en haut qu'on ne connaît pas, dont on parle peu, c'est l'empire hittite. Alors c'est vrai qu'il a disparu, il a été beaucoup moins puissant par la suite, à l'époque de David, etc. Mais avant, c'était un empire puissant, qui était donc en Asie mineure. Et il y a eu donc des guerres entre ces deux empires. Et voilà, donc c'était les deux grandes puissances un petit peu avant. Un petit peu avant le début du livre des rois. Ce qui a permis à Saül, à David, à Salomon de pouvoir conquérir des territoires sans être trop inquiété par ses voisins. Il y a eu des petites guerres avec les Philistins, toujours, etc., mais il n'y avait pas de grand empire qui pouvait contrecarrer l'extension du royaume d'Israël. Donc une grande prospérité sous Saül, David et Salomon. On va juste regarder donc les grands points qui sont soulignés dans le livre des rois. Il y a trois grands épisodes. Tout d'abord, le règne de Salomon, un sommet. Vous le lirez, vous le découvrirez, un sommet, une apogée, l'âge d'or, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau commercial, au niveau spirituel. Au niveau, c'était le grand roi Salomon. Tout le monde venait écouter sa sagesse. Mais c'est aussi, on le verra, la fin de l'histoire de Salomon, le commencement d'un déclin spirituel. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, le livre des rois nous parle de ce déclin spirituel. Ce qui s'est passé, pourquoi il y a une séparation entre le royaume du nord et le royaume du sud, et puis l'aggravation du péché, en partant de Jéroboam Ier jusqu'à Akab, du péché de Jéroboam Ier jusqu'au péché d'Akab. Et puis, ensuite, dans un troisième temps, le premier livre des rois fait un arrêt sur image ou sur un zoom, plus particulièrement sur le ministère du prophète Élie, au temps du roi Akab et de sa femme Jézabel. Alors je vais vous proposer une structure des livres du roi, comme ceci. Une photo du temple de Salomon, vas-y, me montre. Enfin, une photo, un schéma, pardon, du temple de Salomon. Il était construit avec du cèdre, il y avait énormément d'or, d'argent, de bronze. C'était quelque chose de toute beauté. Et puis devant, deux colonnes. Voilà. Alors le plan du livre maintenant, structure du livre des rois. Donc la royauté unie de Judas, de Salomon, sous Salomon. Ensuite, le royaume divisé d'Israël et de Judas jusqu'au roi Omri. Ensuite, Élie et Akab. Donc ça, c'est pour le premier livre des rois. Puis ensuite, on a dans le deuxième livre des rois, Élisée et Jéhu en Israël. Ensuite, le royaume divisé jusqu'à la fin du royaume d'Israël. Et ensuite, les derniers rois de Judas jusqu'à sa fin. Et on voit une structure, comme j'en ai parlé déjà l'autre fois, qui est en triangle comme ceci. Les Juifs aimaient bien présenter les choses comme ceci. Rappelez, on a des rois du royaume, les descendants de David, et on retrouve les royaumes de Juda, royaume divisé de Juda et d'Israël jusqu'à la fin, et puis au milieu, le ministère de Élie et Élisée. Tout ceci pour nous dire que l'attention que l'on doit porter dans ce livre des rois, c'est peut-être sur ça. Comment Dieu est intervenu auprès du peuple d'Israël au travers de ses prophètes. Voilà. Alors on va aborder trois points ce matin. Et le premier, c'est la royauté. Voilà, vas-y. Alors j'ai mis ici une chronologie des rois. Je vous la donnerai tout à l'heure, ça vous aidera peut-être à faire une lecture du livre des rois. En tout cas, l'histoire donc, des deux royaumes est racontée au travers de celle des rois, de leurs rois. Et il le fait de façon exhaustive, donc c'est ça qui est intéressant. On a la liste de tous les rois qui ont régné les uns derrière les autres. Il le fait aussi de façon chronologique. C'est pourquoi on verra une alternance dans la présentation. Il y aura des rois en Israël, des rois en Juda, etc. Il va revenir sur des rois en Israël, tout ça parce qu'il veut respecter un ordre chronologique. Donc il y a une alternance. Et puis vous verrez qu'à chaque roi, il mentionne aussi des éléments qui reviennent systématiquement. Il a pris une structure pour parler d'un roi, la façon dont il a gouverné, de qui il est le fils, comment il est mort, qui a régné après lui, la durée de son règne, etc. Mais vous verrez en lisant le livre que l'auteur n'a pas voulu faire un récit complet et détaillé de leur règne. Par contre, il a été sélectif et il a toujours abordé l'aspect, non pas politique, militaire, économique ou social, mais toujours l'aspect spirituel de leur règne. Et le roi Omri est un exemple assez fort parce que c'était un des plus grands rois d'Israël, mais il n'y a seulement que 8 versets qui le concernent. Et son règne a été résumé par un verset qui dit « Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que ceux qui étaient avant lui. » Il y a quelque part une évaluation de chaque rois par rapport à leur comportement, la façon dont ils ont abordé leur la loi de Dieu. Et vous verrez, chaque fois, soit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou bien il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est intéressant, alors on ne va pas le faire, mais si vous avez eu le temps de relire ce que Dieu a donné comme instruction par rapport au roi, hein, dans Deutéronome 17, 14 à 20, il a donné des règles précises. Et en relisant ces règles, ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. L'important, c'est l'attitude de chaque souverain dans sa relation avec Dieu et dans les responsabilités qu'il avait. Parce que, et on le voit dans Deutéronome aussi, le bien-être de la nation dépend du respect qu'ils ont de l'alliance faite avec Dieu, de leur attachement à Dieu, de leur attachement sincère à Dieu. C'est pourquoi le succès d'un souverain n'est pas est mesuré à sa fidélité à Dieu et au témoignage rendu à la gloire de Dieu. Donc la norme à l'époque, c'était: un roi a-t-il respecté la loi de Dieu ou pas, l'alliance du Sinaï. Alors pour nous aujourd'hui, évidemment, ce qui est déterminant, ce n'est pas le fait de respecter la loi ou pas. C'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Et tout comme l'auteur du livre des rois ne s'est pas arrêté ni sur la gloire, ni les œuvres des rois, de même, Dieu non plus ne s'arrêtera pas sur notre renommée, nos biens matériels, nos bonnes œuvres, pour nous juger à la fin des temps. Si nous avons revêtu sa justice en acceptant Jésus comme seul sauveur, si nous n'avons pas revêtu sa justice, Dieu nous condamnera à l'enfer, à des remords éternels hors de sa présence. Voilà pour la royauté. Je ne vais pas détailler parce que c'est à vous de découvrir. Je voudrais voir ensuite aborder le problème du péché et de ses conséquences. Dieu a béni, vous le verrez, de façon extraordinaire, Salomon. Mais Salomon, vous le verrez également, qu'il est bien conscient du danger de s'éloigner de l'Éternel. Vous verrez en particulier sa prière qu'il a faite quand il a dédicacé le temple. Et c'est aussi un point important pour comprendre l'ensemble du livre. Sa prière pour le peuple, c'était que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est maintenant. Ils étaient dans une situation spirituelle où ils étaient attachés à l'Éternel, mais sa prière, c'était que leur cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est maintenant. Alors, est-ce que vous connaissez le nom des deux colonnes du temple de Salomon ? Parce que vous savez qu'il y avait deux colonnes. Alors, elles s'appellent Yakin et Boaz. Et quand on rassemble les deux noms, en hébreu, ça signifie « Dieu donnera la force ». C'est intéressant de savoir que par rapport au fait de rester attaché sans réserve à l'Éternel, quelque part, le secret, il est là, dans la présence de Dieu. Et Dieu donnera la force. Alors, je vous laisse découvrir comment le péché s'est manifesté dans la vie des uns et des autres. Et on sait que Dieu aussi, alors je vais juste passer très rapidement, hein, par rapport au péché, Dieu a puni les rois qui se sont détournés de lui. Et vous le verrez, soit de leur vivant, soit à la génération suivante. C'est intéressant de voir ça, que Dieu a donné parfois la possibilité à un roi de continuer sa vie. Hein, David, Salomon, tout ça, le schisme, la séparation, c'est passé après le règne de Salomon. C'est la même chose pour d'autres rois. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché est une réalité dans notre vie depuis que l'homme a chuté. Mais Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre, libéré de l'esclavage du péché. Ça, c'est ce que Jésus nous offre par la foi en lui. Et si nous sommes libres, nous savons aussi qu'il frappe encore à notre porte. Et je voudrais citer le texte d'Hébreux 12 qui dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Voilà. J'aime bien cette image qui dit, enfin j'aime bien, c'est triste, mais c'est une réalité que le péché nous enveloppe si facilement. Et nous devons être vigilants par rapport à cela. Mais nous savons aussi qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Un verset qu'il faut apprendre par cœur. Quand on est tenté, 1 Corinthiens 10, 13. C'est un verset qui nous assure qu'aucune tentation n'est trop forte pour nous. Les promesses de Dieu qui se réalisent. Donc on a vu la royauté, on a vu le péché, puis on va voir maintenant rapidement les prophètes. Les prophètes, je l'ai rappelé, dans le plan, ils ont une place importante, ils ont une place centrale, et leur ministère, il est toujours en relation avec le règne d'un roi. Parce que Dieu n'a jamais abandonné le pécheur dans son péché. À plusieurs reprises, Dieu a envoyé, même au pire des rois, même souvent au pire des rois, un prophète pour l'amener à revenir vers Dieu. Bon, tu peux mettre le plan hein, qui suit. Parce que Dieu est un Dieu rédempteur. Un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui veut pardonner aux pécheurs qui se repent. Et je l'ai rappelé, Dieu parfois repoussait son jugement quand un roi se repentait, même si c'était partiellement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne nous laisse pas nous enfoncer dans le péché, mais il vient pour nous récupérer, pour nous appeler à lui. Alors évidemment, je veux parler quelques instants de Élie, qui est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et rappelez que son ministère est un point central du livre des rois. Il illustre parfaitement la générosité, la patience, la grâce de Dieu qui est à l'œuvre au milieu de son peuple. Au travers de Élie, il accomplit de nombreux miracles et des choses puissantes. Élie était là pour interpeller non seulement le roi Achab, mais le peuple entier. Et il leur disait, jusque à quand clocherez-vous des deux pieds ? C'est-à-dire, ils adoraient Baal et ils voulaient continuer à adorer l'Éternel, mais on ne peut pas adorer Baal et l'Éternel. Jusque à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, mais allez après lui, mais choisissez. Le but d'Élie était évidemment que le peuple reconnaisse que c'était l'Éternel qui était Dieu et que c'est lui qui ramenait leur cœur vers Dieu. Je cite là des passages de 1 Roi. Dans nos vies, qui écouter ? Vers qui se tourner pour connaître la voie à suivre ? Je crois que l'important, c'est ce que Élie disait, l'important c'est de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Et donc, de l'écouter et de lire sa parole qui nous a été donnée comme un guide et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Et je voudrais juste citer ce verset de Timothée qu'on a revu vendredi à l'étude biblique avec ce qui était là. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qui va nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans le but que nous soyons préparés par Dieu et équipés à son service. Et je voudrais rajouter cette phrase que Paul a dite aux Colossiens, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Voilà. On va lire pendant plus d'un mois, on a le temps de le lire et de le relire, le premier livre des rois. Je pense qu'il est intéressant de prendre le temps sur ces trois éléments importants qui sont dans ce livre, à savoir le règne de Salomon. Vous allez voir, mais de contempler comment Dieu l'a béni, comment Dieu l'a utilisé, de voir la grandeur de Dieu au travers des bienfaits qu'il a accordés. Et puis par rapport au péché, c'est pas très drôle de regarder, de lire que tel roi s'est donné à l'idolâtrie, qu'il a adoré Baal, Astarté, etc. Mais ça nous renvoie aussi à notre propre vie, évidemment, et de réfléchir à nos, aux dangers qui nous guettent, de nous détourner de Dieu, et peut-être aux mauvaises influences ou aux bonnes influences que peuvent avoir les autres sur nous. Et puis, quand vous regarderez le ministère d'Élie, de voir quelle est la puissance que Dieu a mis en œuvre, l'énergie, pour essayer de racheter son peuple, pour essayer de ramener son peuple à lui. Au travers des miracles qu'il accomplit, au travers de ces manifestations de grandeur, combien Dieu met en œuvre énormément de choses pour rappeler à lui celui qui s'est éloigné de lui. Alors j'espère que vous pourrez apprécier et tirer une partie de cette lecture du premier livre des rois, et puis on se donne rendez-vous dans un mois et demi pour partager ensemble ce que le Seigneur nous aura appris.